C'était une question pour Laurent Tessier. Merci pour votre présentation et peut-être d'ailleurs aussi pour Thibault. Est-ce que quand vous parlez de cet aspect formation du projet, vous avez parlé notamment d'un partenariat avec Lix, comment ça se traduirait concrètement? Parce que je vois pas comment les élèves iraient à Fuju. Enfin, peut-être que ça se passerait comme ça. C'est plus pour peut-être plutôt pour Laurent Tessier qui doit avoir une bonne idée de
Et
comment ça va se passer.
peut-être pour Thibaut Desfossés aussi qui a une idée à peu près précise sur la manière dont ça peut se passer. Je passe tout de suite la parole aussi à Monsieur Refait et ensuite je passe la parole à Thibaut Desfossés pour répondre et clore. Ensuite, on va ouvrir les questions à l'ensemble de nos intervenants. Je vois que Monsieur Dupont de FNE a aussi levé la main. Donc, Monsieur Refait et ensuite Thibaut Desfossés.
Merci, merci beaucoup. Et moi, c'était une question pour Madame Denis. Je remercie par ailleurs pour sa présentation et pour le pragmatisme de la démarche. Moi, ce qui m'interpelle dans la présentation que vous avez faite, c'est que vous faites un diagnostic avec trois niveaux de granularité, l'international, l'Europe et la France. Et alors, peut-être que c'est moi qui ai mal compris et dans ce cas, corrigez-moi, mais le constat que vous posez ensuite, c'est un constat qui est monolithique. Donc, typiquement, ce que vous dites, voilà, c'est ainsi à l'international, c'est ainsi au niveau européen et c'est ainsi au niveau français, mais les conséquences sont tout le temps les mêmes. Et notamment, vous parlez d'une concurrence sur l'usage de l'eau, une concurrence sur l'usage de l'énergie et de risques comme des canicules. Moi, ce que je trouve potentiellement dommage dans l'analyse, c'est de pas se dire pourquoi sur le constat on a trois étages de diagnostic et par contre sur les conséquences on n'en a plus qu'un parce que typiquement en France on ne consomme pas d'eau, on ne consomme pour ainsi dire pas d'eau, donc il y aura pas de concurrence sur les usages de l'eau. De la même façon, aujourd'hui en France on sous-produit de l'énergie, donc la demande est relativement atone, ce qui fait que demain, on ne risque pas de se retrouver à prendre notre secteur, l'énergie d'autres secteurs. De la même manière, et j'en terminerai là, sur les canicules, en France, l'énergie, elle est décarbonée. Donc concrètement, le fait de consommer en France, de l'énergie pour un data center ou quelque chose d'autre, ça ne crée pas de canicule. Et moi, je regarde votre présentation avec beaucoup d'intérêt et je vous remercie à nouveau. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on puisse faire le constat que vous faites, qu'on peut souscrire, auquel on peut souscrire par ailleurs, et néanmoins, se dire que la France a des atouts et des particularismes intéressants.
Merci pour cette intervention et ce rebond sur l'intervention de France Data Center. Je vais quand même passer la parole à Thibaut Desfossés qui a été interpellé par Pauline Denis sur le partenariat avec l'École Polytechnique. Madame Denis, si vous le souhaitez, je vous repasse la parole juste après. Et après, on clôt, on va dire, notre échange table ronde virtuelle et on ouvre aux questions de notre salle complète. Donc Thibaut Desfossés, peut-être si vous voulez revenir sur le sujet du partenariat avec l'École Polytechnique.
Oui, alors le partenariat avec Polytechnique évoqué par Madame Denis, c'est le premier d'un ensemble de partenariats qui ont vocation à voir le jour dans le cadre de ce projet et pour lequel des financements importants sont mis à disposition de ce qui va sans doute être une fondation. On est en train de travailler à l'organisation de comment ces fonds sont distribués. La chose importante, c'est qu'une partie des profits du projet s'est ancrée dans le pacte d'actionnaires, doit aller vers ces partenariats. Le partenariat avec Polytechnique, pour vous répondre, il a été signé en mai, il y a donc quelques mois, et il contribue au financement de bourses de thèse dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle, avec des premiers fonds en janvier 2026. Voilà, janvier 2026. Je pense que le message plus large, c'est de dire que la raison pour laquelle à ce jour, il n'y a qu'un premier partenariat qui est à l'échelle nationale, c'est simplement que le choix d'implantation du site à Fuju s'est fait dans les derniers mois et en tout cas dans le courant de l'année 2025. Et donc, on n'a pas eu, comment dire, le temps encore de déterminer quelles étaient les bonnes universités, les bons IUT, les bons partenaires au niveau local et régional. Mais c'est un sujet auquel on est en train de s'atteler. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Mais sinon, n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur cet angle éducation, recherche, formation et reformation.
Merci. Madame Denis-Jours passe la parole et puis ensuite on passera. J'appellerai chacun à lever la main pour pouvoir s'exprimer en sachant que je vais inviter tout de suite Monsieur Dupont à relever la main puisque je lui ai baissé par erreur. Voilà, donc il sera le premier à s'exprimer après. Madame Denis-Jours passe la parole.
Oui, merci beaucoup. C'est très clair. Merci, Monsieur Defosse, pour la réponse.
Merci.
Et merci à Monsieur Refait pour vos questions. Ok, je vais répondre. Il y avait plein de questions dans la question. Déjà sur la partie constat monolithique. Alors, bon, je suis allée vite et j'ai dû aller trop vite. Donc, je répète. Donc, au contraire, on a bien essayé de distinguer les enjeux aux trois niveaux. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'au niveau mondial, l'enjeu que l'on observe, c'est un réel enjeu climatique, avec les émissions de gaz à effet de serre et donc une contribution au dérèglement climatique, alors qu'à l'échelle France, l'enjeu est très différent. Celui qu'on observe, c'est plutôt un enjeu de concurrence d'usage de l'électricité. Donc c'est vraiment très différent. Au contraire, et du coup j'ai raté, hein, mais au contraire, on a vraiment fait des constats pas du tout monolithiques, très différents pour ces deux échelles. Donc je parle effectivement de concurrence d'usage de l'électricité parce que nous au Shift on parle principalement énergie et climat. Donc l'enjeu ressources d'eau, on l'a traité mais on a quantifié que la concurrence d'usage sur l'électricité. La deuxième question était sur en France on sous-produit de l'énergie, mais j'imagine que vous voulez dire on surproduit de l'énergie. En 2024 on a surproduit de l'électricité. Ça, le 31 décembre 2024, quand on a sommé notre consommation et ce qu'on avait donc importé, consommé et produit, effectivement, il y avait plus de production. On faisait moins les malins en 2022 pendant la crise. Donc effectivement, tout est question de conditions. Donc on n'était pas du tout en excédent en 2022 dans des conditions qui pourraient complètement se reproduire d'hiver sans vent et sans soleil. Donc ça pourrait complètement se reproduire. Par ailleurs, juste sur cette question-là, j'ai pas envie d'entrer dans les détails techniques, mais c'est quand même important de comprendre que ce qu'on constate au 31 décembre d'une année, en prenant en cumulé ce qu'on a produit et en cumulé ce qu'on a consommé, ne reflète en rien l'équilibre du réseau instantané. Donc ça ne c'est pas parce qu'à la fin de l'année, on a eu 10, 20, 30, 100 TWh de produits en plus que à l'instant, donc à l'instantané, ce qui est nécessaire pour faire tenir le réseau, on avait effectivement une surproduction d'électricité. Ouais, donc c'est des enjeux qui sont assez différents et à ne pas confondre. Sur la troisième question qui était en France, on ne consomme pas d'eau. Je pense que bah, tout est relatif. Moi, je m'y connais pas parfaitement en consommation d'eau. Simplement, pas tous les centres de données, mais certains centres de données sont consommateurs et d'autres prélevateurs, prélèvent de l'eau. Et c'est un enjeu qu'il faut regarder sans dire qu'effectivement on va assécher la France avec les centres de données. Loin de là, on ne dit absolument pas ça. Simplement, c'est un enjeu à regarder, notamment dans des zones qui sont aujourd'hui déjà sujettes à des stress hydriques et ou des zones qui sont très agricoles et qui ont donc besoin de prélever et de consommer une certaine quantité d'eau. Donc effectivement, tout dépend du mode de refroidissement du centre de données, évidemment. Certains centres de données se refroidissent à l'air, d'autres à l'eau en boucle fermée, auquel cas ils consomment peu d'eau, mais d'autres à l'eau et en boucle ouverte, auquel cas ils consomment plus d'eau. Donc c'est effectivement des éléments à regarder. Et la quatrième question, c'était sur l'énergie décarbonée. Vous avez dit, en France, on a une énergie décarbonée, donc on ne crée pas de canicule. Bon, il faut pas confondre météo et climat. Effectivement, on va pas créer une canicule, à part peut-être un îlot de chaleur avec un centre de données, c'est pas du tout ce qu'on dit. Simplement, électricité, donc énergie, mais électricité décarbonée, ça veut pas dire que pour un watt-heure, vous avez 0 gramme de CO2 équivalent. Il y a quand même une cinquantaine de grammes de CO2 équivalent en France, donc on n'a pas une énergie 100%, une électricité 100% décarbonée. Et en fait, ce qu'on dit, c'est absolument pas qu'on va contribuer au dérèglement climatique avec les centres de données en France. Vraiment, je répète, on parle de concurrence d'usage de l'électricité, aussi de l'eau, mais surtout de l'électricité, parce qu'aujourd'hui, la consommation des centres de données, qui pourrait quadrupler en 10 ans, n'a pas du tout été anticipé par les prospectives et par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité qui est RTE.
Merci pour ces réponses. Peut-être à l'occasion d'une prochaine réponse, Thibault Desfossés pourra revenir peut-être sur la technologie qui est envisagée dans le cadre du projet Campusia par rapport au sujet de la consommation de l'eau, histoire de clore, en tout cas de manière momentanée, ce sujet-là. Je vais donc passer la parole aux mains qui se lèvent. Donc on a une main levée pour l'instant. Si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas à lever la main et je prendrai les questions dans l'ordre d'apparition. Juste avant, vous indiquez aussi, certains l'ont détecté, mais vous avez la possibilité de vous exprimer dans le chat, qui est très actif déjà, qui permet déjà voilà, des premiers échanges sur les présentations ou des compléments d'informations par rapport aux présentations qui vous ont été faites. Donc n'hésitez pas à vous servir du chat de Zoom. Monsieur Jean-François Dupont, donc je vous ouvre le micro, vous avez la possibilité, il faut que vous le fassiez également de votre côté et nous vous écoutons.
Oui, bonjour, Jean-François Dupont, France Nature Environnement, Seine-et-Marne. Mais je ne poserai pas de questions là concernant, aussi peut-être une question concernant le site de Fouju. J'ai entendu dire que la chaleur fatale produite par le projet équivaudrait à un chauffage de 200 000 foyers. Je voulais savoir si c'était effectivement bien de cet ordre de grandeur dont il s'agissait. Mais je voulais aussi réagir par rapport à la présentation du chiffre projet qui est très claire. On voit bien qu'il y a une croissance exponentielle des implantations de data centers et de consommation électrique liée à ces data centers. On voit bien aussi que il va y avoir des consommations d'électricité exponentielles aussi pour décarboner les autres secteurs d'activité. Et donc, je me demande, comme le suppose effectivement le rapport du chiffre projet, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce que l'impact donc de la croissance de ces nouvelles activités ou la décarbonation des autres activités nécessaires et qui peuvent rentrer en conflit, est-ce que ça a été vraiment anticipé? Apparemment, d'après ce que dit le chiffre projet, non. Donc, qui doit mener cette anticipation pour effectivement retrouver l'équilibre entre les usages. Je ne vois pas tellement encore qui porte la responsabilité de cette affaire-là. Sans compter que le nucléaire et l'électricité est décarbonée, donc qu'on nous présente comme la solution miracle, c'est effectivement l'électricité d'origine nucléaire. Et il s'agit d'un pari, qui peut être entendu, mais il s'agit d'un pari. Et on a encore des incertitudes sur l'équipement nucléaire de la France à l'échelle 2030, 2040, 2050. Donc, il faudrait quand même clarifier tous ces éléments-là avant de se précipiter sur des opportunités. Il est évident que les data centers, on en aura besoin. Il est évident que c'est un marché d'opportunités. Mais le fait de vouloir mettre la charrue avant les bœufs m'interpelle.
Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains levées. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, je vais repasser la parole à Thibault Desfossés peut-être pour ces deux interventions, avec donc un rappel peut-être des choix technologiques qui ont été faits dans le cadre du projet sur la technique de refroidissement. Qui a été abordé déjà lors de la réunion d'ouverture de la concertation préalable qui a eu lieu la semaine dernière. Revenir aussi sur le sujet de la chaleur fatale et l'usage qui est susceptible d'en être fait. Après, sur le pilotage, on a compris votre interrogation, hein, sur le pilotage ou l'anticipation ou la planification, pour reprendre les mots de Pauline Denis. De la consommation, peut-être que RTE, s'ils sont présents, pourront intervenir ou rappeler peut-être des éléments d'information ou renvoyer sur d'autres éléments d'information, notamment dans le cadre du schéma décennal de développement du réseau, ce qui ne changera rien au fait qu'effectivement, on n'a pas de représentant du ministère de l'Énergie présent ce soir pour nous répondre spécifiquement sur ce point. Thibault Desfossés, je vous repasse la parole. Et puis n'hésitez pas, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, à lever la main dès à présent.
D'accord, donc le sujet de l'eau, la chaleur dite fatale et le sujet de la planification RTE. Donc Au sujet de l'eau, ça nous a été mentionné dès les toutes premières conversations avec la mairie de Fouju et la communauté de communes Bride-Rivière-et-Château comme étant un sujet particulièrement sensible en Seine-et-Marne. Et donc, on a souhaité, dès ces premières conversations, prendre l'engagement de ne pas utiliser d'eau lors de la phase 1. Phase 1 qui, pour rappel, représente 8 des 50 milliards d'investissements, les premiers 8 milliards d'investissements du projet. Pourquoi on parle de phase 1 plutôt que de phase suivante? 1, parce qu'on l'a dit, c'est un projet modulaire qui a vocation à se développer dans le temps. Et si aujourd'hui, je vous disais, on s'engage sur toutes les phases, en vérité, les choix techniques des bâtiments qui seront réalisés dans 4 ou 5 ans n'ont pas encore été faits. Alors qu'à l'inverse, les choix techniques des premiers bâtiments ont été faits ou sont en train d'être faits. Voilà. Donc on a souhaité prendre cet engagement. Et pour les phases suivantes, ce qu'on s'est dit avec la mairie et la communauté de communes, c'est qu'on s'en remettrait à leur décision. Si elles nous disent à ce moment-là, il existe des eaux grises dans des stations d'épuration aux alentours pour lesquelles on n'a pas de bon usage, peut-être qu'on les mettra à disposition du campus, auquel cas, nous, on peut à ce moment-là souhaiter les utiliser pour une petite partie du refroidissement, mais encore une fois, ça n'est pas une obligation technique. Et d'ailleurs, on a fait le choix pour cette première phase de n'utiliser aucune eau. Lorsque je dis aucune eau, je vais être clair sur ce que ça veut dire. Il y a un peu d'eau pour les systèmes anti-incendie, un peu d'eau pour les sanitaires, mais il n'y a pas d'utilisation d'eau pour faire du refroidissement dit par évaporation ou adiabatique. Voilà, donc c'est la réponse claire qu'on souhaite vous donner et qu'on a adoptée pour ce projet. On est familier de projets. Par exemple, l'un de nos investisseurs, MGX, s'est investi dans des sociétés, notamment aux États-Unis, qui, elles, font des choix techniques différents et utilisent énormément d'eau. Voilà, on est familier de ces différentes solutions technologiques. Et là, on s'est mis à un extrême du spectre en disant aucune utilisation d'eau. Sur le sujet de la chaleur résiduelle dont il est important de réfléchir à comment la valoriser, on explore plusieurs pistes. On a des conversations avancées avec l'APIJ, donc l'entité en charge de la construction de la prison de Criznoy, qui va être limitrophe du campus. On est également en discussion avec les municipalités de Fouju et Criznoy pour voir si on pourrait utiliser une partie de cette chaleur pour chauffer des équipements municipaux. On est en conversation active avec plusieurs exploitants agricoles de la zone qui sont intéressés pour diversifier leur activité et avoir des serres agricoles pour réutiliser une partie de cette chaleur. Il n'échappera pas à vous tous, mais en particulier au Shift Project qui sont très bons avec les chiffres, que la somme de ces besoins que je viens de mentionner, de ces possibilités de valorisation, ne correspondent pas à l'intégralité de la chaleur qui va être produite sur ce campus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse, en parallèle, explorer des usages de plus grande capacité. Donc, c'est l'objet, par exemple, de conversations qu'on a avec la ville de Melun. Ville de Melun qui a, et c'est un des avantages du projet indirectement, qui a l'un des plus grands réseaux de chauffage, l'un des plus grands réseaux de chaleur urbaine. Et ce réseau, à son point le plus extrême dans la direction de Vaux-le-Vicomte et donc du projet, à seulement 7 ou 8 km du projet. Voilà, donc ça pourrait être une piste pour utiliser cette fois une partie importante de la chaleur du projet. Au sujet d'RTE, de la planification, je regrette qu'on n'ait pas aujourd'hui, semble-t-il, quelqu'un d'RTE comme on l'avait mercredi lors de la réunion d'ouverture, à moins que quelqu'un d'RTE se manifeste. Madame Durand, vous êtes en train de dire que peut-être quelqu'un est présent. Je vais continuer lorsque vous arriverez à débloquer votre micro, vous m'interrompez. Nous, les conversations qu'on a avec RTE sont les suivantes. La première, c'est que oui, toute forme de planification, et donc notamment planification décennale du réseau, mais aussi les scénarios de croissance de la consommation et de mix énergétique à l'horizon, cette fois non pas 10 ans, mais 25 ans, sur lesquels je sais qu'il y a des débats avec le Shift Project, toute forme de planification se heurte à l'évolution des besoins, l'explosion de certaines tendances technologiques, et notamment depuis 2022 et le lancement de ChatGPT, à l'impact de l'IA générative sur les besoins d'infrastructures digitales. Je pense que d'ailleurs, ni le Shift Project, ni France Data Center n'est en train de dire que tout ça se fait sans aucun contrôle. D'ailleurs, pour vous donner l'exemple du projet qu'on connaît, donc le nôtre, on est en conversation avec RTE de façon, sinon quotidienne, en tout cas plusieurs fois par semaine, depuis février 2024, justement pour faire l'estimation la plus fine possible de la rampe du projet, de la rampe de capacité du projet. Et justement, l'une des choses qu'ils mettent en avant de leur côté, c'est qu'il y a un vrai avantage du point de vue de la planification nationale à avoir quelques très grands projets qui, comme le cas comme c'est le cas de Campus IA, ont cette vocation de projet ouvert, voilà, donc qui n'est pas réservé à un opérateur unique, plutôt qu'avoir un bourgeonnement de plein de petits projets de data centres isolés qui viennent ponctionner sur le réseau sans que ce soit planifié en centrale. Et donc, nous, concrètement, on parle avec RTE chaque semaine, on fait partie de ces sites fast-track qui ont été déterminés par RTE, pas seulement parce qu'ils peuvent fournir de la puissance rapidement, mais aussi parce que ça s'insère de façon efficace dans leur schéma de planification. Et d'ailleurs, tout ça ne se fait pas à titre gratuit, hein. On paye une taxe spéciale ou une contribution spéciale, précisément parce qu'on a accès à un de ces sites de très grande capacité qui s'inscrivent dans leur schéma de développement en venant ponctionner la ressource électrique sur le réseau 400 000 volts, directement relié aux centrales nucléaires, sur une ligne dont ils ont vérifié auparavant qu'elle avait plus de 2 gigawatts de puissance disponible. Voilà. Donc, encore une fois, pas pour dire qu'il n'y a pas un sujet du besoin pour la planification électrique de réagir à cette tendance technologique et en tout cas introduire une forme de rationalité au niveau national sur là où on laisse se développer ce type de projet. Nous, ce qu'on dit, c'est que notre projet s'inscrit précisément au cœur de cette planification en travaillant main dans la main avec RTE sur des sites préidentifiés comme ne conduisant pas à ce type de conflit d'usage.
Merci beaucoup pour vos réponses. Pour répondre aussi à une partie des interpellations dans le chat, RTE a apporté quelques premiers compléments de réponse et renvoie aussi évidemment ils ont raison de le faire, sur le débat national en cours sur le schéma décennal de développement du réseau, dont le lien est du coup partagé dans le chat. Je vais prendre trois questions du chat. Je vais vous repasser la parole. Ensuite, on prendra peut-être la question d'Olivier Klein qui avait la main levée. Ce que je vous propose, c'est de faire vraiment des interventions assez courtes pour qu'on passe ensuite à la deuxième table ronde. On a deux interventions lors de la deuxième table ronde et ensuite on a de nouveau un temps d'échange qui sera d'une longueur suffisante pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je relaie quelques questions du chat, toujours sur les sujets qu'on vient d'aborder. Quel type d'engagement existe pour dire qu'il n'y aura pas de pompage dans la nappe et d'utilisation d'eau? Est-ce qu'il s'agit d'engagements oraux, d'engagements contractuels? Et est-ce que ces engagements tiennent toujours, même en cas d'épisode de canicule, par exemple? Une question aussi sur l'identité des futurs opérateurs, des data centers du projet. Et puis une question pour rebondir sur ce qu'on évoquait, sur la puissance électrique appelée et aussi peut-être la consommation, parce qu'il y a, je vois qu'il y a des gigawatts et des gigawattheures qui sont évoqués. Voilà, est-ce qu'on a déjà une idée de la puissance appelée? Ça a été évoqué dans les dossiers de concertation, mais aussi une idée de la consommation attendue de ces installations. Engagement par rapport à la non-consommation d'eau, même sur la phase 1 que vous avez évoquée. Identité des futurs opérateurs, connus, pas connus à ce stade, secret commercial ou non, et puis puissance et consommation électrique. Et ensuite, je passerai la parole, que je me suis engagé à Monsieur Olivier Klein, et on passera à la deuxième table. Merci. Si vous défaussez, on peut considérer que les questions sont pour vous. Je ne sais pas si vous les avez bien entendues, si vous souhaitez que je vous les rappelle.
Oui, pardon, j'étais en train de répondre dans le chat aux questions.
Oui, c'est le piège du chat. On va se dire collectivement que le chat est un outil qui permet l'expression, les observations, les renvois vers des sites ultérieurs, mais J'invite les porteurs de projets et donc vous-même à répondre plutôt à l'oral plutôt que
D'accord,
sur
d'accord, d'accord.
des doubles discussions. Allez-y.
D'accord, mais comme Monsieur Saint-Martin dit que les paroles s'envolent, les écrits restent, je pensais que c'était bien de lui répondre à l'écrit.
Vous avez raison,
Mais
je
donc, Monsieur
l'ai.
Saint-Martin, pour le bénéfice de tout le monde, dit, nous avons pris l'engagement de ne pas utiliser d'eau, très bien, mais c'est quoi la nature de cet engagement? Est-ce que vous nous dites ça à l'oral? Et en fait, ça va partir. C'est une promesse vertueuse, mais ça pourrait être révisé en cas de canicule, etc. Donc, c'est un engagement écrit vis-à-vis de la commune, de la communauté de communes, de la préfecture et de la chambre d'agriculture. Et pour répondre aussi, est-ce qu'il serait possible qu'on change d'avis en cas de canicule? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer mercredi dernier. La réponse, c'est non, parce que le choix technique de la méthode de refroidissement, concrètement, il ne va pas y avoir d'arrivée d'eau qui permette la vaporisation sur les ventilateurs d'eau, comme c'est le cas dans des méthodes de refroidissement par évaporation. Donc, quand bien même on changerait d'avis ou une nouvelle équipe viendrait qui n'aurait aucun souci pour les questions environnementales ni pour les engagements qui ont été pris, elle n'aurait de toute façon pas la possibilité technique de ce changement d'avis. En revanche, vous pourriez me dire, oui, mais attendez, pour les bâtiments dont vous n'allez pas commencer la construction tout de suite, bon, bah, là, on se repose sur les engagements qui ont été pris, et j'ai voulu être très transparent sur le sujet. Ce qu'on a dit avec les autorités, c'est on se laisse la possibilité, s'il y a des eaux grises dont vous ne savez pas quoi faire plus tard, de les utiliser, et à ce moment-là, pour des bâtiments futurs, on fera un choix technique différent. Mais c'est à la main des autorités. OK, alors, j'espère que ça répond, et sinon, Monsieur Saint-Martin, vous le savez, on en a parlé mercredi dernier, on est à votre disposition pour échanger plus à ce sujet et à tout autre. Alors, la question de la responsabilité, elle n'appartient pas à un seul acteur. Excusez-moi, il faut que je lise en parallèle.
Alors, les trois questions que j'ai isolées, les autres peuvent être rebasculer peut-être sur notre deuxième table thématique liée à la
D'accord,
souveraineté.
d'accord.
Est-ce qu'on peut connaître à ce stade l'identité des opérateurs qui sont retenus pour on évoque les quatre premiers, enfin en tout cas la question de l'internaute concerne quatre data centers du campus.
Oui.
Et puis une autre question sur la consommation électrique globale du projet.
D'accord. Alors sur le mix des opérateurs, nous, on ne peut pas communiquer là-dessus simplement parce qu'on n'a pas encore, on est en phase de concertation. Donc vous imaginez qu'on a des conversations préliminaires avec un ensemble d'opérateurs, des Français, mais aussi des Européens et internationaux. En revanche, on n'est pas en position aujourd'hui de prendre un engagement commercial alors même qu'on est en train de mener cette concertation. Ce qu'on peut vous dire, c'est que au-delà de l'aspiration à avoir une diversité d'acteurs sur le campus, on a en fait un engagement, encore une fois, Monsieur Saint-Martin, contractuel, puisque le pacte d'actionnaires entre la BPI, Mistral, MGX et Nvidia prévoit justement qu'il y ait cette diversité d'acteurs et d'acteurs est définie de deux façons, sans rentrer trop dans le secret des affaires, mais la façon dont ça a été défini, c'est à la fois en termes de clients immédiats ou de partenaires immédiats de l'infrastructure, donc l'opérateur des centres de données, mais aussi en termes de clients finaux, puisque ces centres de données, bien sûr, viennent mettre à disposition de la capacité de calcul pour des entreprises. Et donc l'idée, ça a été de dire, à la fois, on veut une diversité en termes de nationalité, français, européens, étrangers, mais aussi une diversité des usages avec à la fois des services numériques au sens large et spécifiquement de l'intelligence artificielle. Sur la question de la puissance, alors je vois un message de Cédric disant, est-ce bien une puissance de 1,4? Et donc là, il est marqué gigawatt. Donc je pense que ce que Cédric a voulu dire, c'est est-ce que c'est 1,4 gigawatt en continu à pleine puissance? Oui, la réponse est oui. Maintenant, comme vous le savez ou d'ailleurs ne le savez pas, pour faire la conversion entre gigawatts et terawattheures, il faudrait prendre le nombre de gigawatts, qui est donc la puissance utilisée, et le multiplier par le nombre d'heures et le nombre de jours dans une année, ce qui vous donnera la consommation en terawattheures par an. Donc il faut faire fois 8760, je crois, si j'ai les bons chiffres en tête.
Merci beaucoup pour ces réponses. Monsieur Lévesquin, je vais vous permettre d'activer votre micro. Voilà, normalement,
C'est
vous
gentil.
pouvez parler, on vous entend. Ce sera, pardon, avant de vous passer la parole, donc là, comme convenu, la dernière intervention avant qu'on passe à la deuxième table ronde. Allez-y, monsieur Klein.
Donc très rapidement, j'ai bien compris l'enjeu. J'avais juste une remarque et donc une question. La remarque par rapport à la consommation d'eau, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, cet engagement de ne pas. Ceci dit, vous étiez sur l'axe Seine, mais vous étiez loin de l'axe Seine. Vous auriez pu être sur l'axe Seine, qui présente l'avantage d'être sécurisé et régulé par les lacs de protection en amont, hein, notamment pour le CNP de Nogent et pour protéger Paris. Mais il s'avère que avec l'évolution climatique, on a le CNPE qui de temps en temps a des petits soucis de refroidissement parce que la température de l'eau de la Seine à cet endroit-là monte un peu trop et pose des problèmes pour la biodiversité. Donc c'est plutôt bien d'être dans cet engagement-là. Sur le CNPE, sur l'électricité, donc je vois, je peux pas imaginer de toute façon sur un projet comme ça qu'RTE soit pas embarqué dans le projet parce que dans le secteur vous avez quand même deux particularités la centrale nucléaire la plus proche, donc le CNPE. Donc de Nogent-sur-Seine, qui est au plus proche, à deux tranches, qui représentent 1300 mégawatts, qui ont été construits en 88-89, donc ils arrivent à leur 36e année. Dans 4 ans, ça va être le grand carénage, avec l'arbitrage, et je pense que l'arbitrage sera favorable, vu la demande actuelle, avec l'arbitrage, je veux dire, est-ce qu'on va au-delà, parce que normalement, au bout de 40 ans, c'est terminé. Donc après, il faut un arbitrage, je veux dire, on va au-delà de 40 ans et on va jusqu'à 50 ans. Donc, on va arriver pile au moment où vous avez votre projet qui sort de terre, de se dire, on arrête cette centrale ou on la continue. Donc, c'est un élément important moteur, je n'ai pas de jugement de valeur dessus, mais c'est un élément moteur par rapport à ce SNPE de le maintenir compte tenu de votre projet en périphérie, même si le réseau électrique est maillé, etc. La deuxième chose, c'est que on est sur la phase d'électrification. Alors, je sais que la SNCF ou le réseau de transport ont leurs propres fournisseurs, etc., mais tout ça, encore une fois, est maillé. Et l'électrification ne va pas être sans incidence et conséquences sur la consommation locale, sur la charge du réseau. Électrification, c'est pour à peu près au moment de votre projet également. Donc c'était juste en remarque. Et ma question, c'est dans votre présentation, il y a une chose que tout était super, mais il y a une chose que je regrette, c'est qu'en fait, on ne s'est pas mis dans l'hypothèse de OK, les besoins sont là, vont être là, de toute façon, on va avoir un certain nombre de besoins. Et je ne sais plus qui commençait, bah c'est Monsieur Thibault Defosse qui commençait à en parler dans cet angle-là, et d'avoir la comparaison dans vos études respectives sur l'impact énergétique, l'impact CO2, l'impact environnemental, de dire OK, on n'a pas ce centre, mais il faut répondre à la demande et aux besoins. Donc ça veut dire qu'on est sur une vision répartie, avec des consommations réparties, avec des centres qui vont peut-être fonctionner avec du non décarboné, des centres qui fonctionnent avec du décarboné, certains qui consomment de l'eau, d'autres pas d'eau, et d'avoir la vision, ben oui, mais si on fait une construction d'échelle avec une concentration qui nous permet et d'avoir cette comparaison. Alors, je sais qu'elle n'est pas forcément facile, mais pourquoi on l'a pas?
Merci beaucoup pour cette intervention, avec effectivement beaucoup de choses qui mériteraient peut-être un complément aussi côté RTE sur la robustesse du réseau électrique à moyen et long terme dans le secteur du projet et une attente que vous exprimez non satisfaite d'avoir finalement une comparaison entre le projet tel qu'il a été présenté et l'alternative consistant à finalement une dissémination, une répartition diffuse de la même capacité de data center sur différents endroits du territoire pour mieux montrer ce qu'apporterait, le cas échéant, une économie d'échelle dans le cadre de ce projet. On garde la question si Monsieur Desfossés veut apporter un élément de réponse tout à l'heure sur ce dernier point, donc l'alternative à à multi-site, on va dire, par rapport au projet Campusia. Ce que je vous propose, ah, je vois que ouais, le représentant pardon d'RTE, Théophile Doumié, est présent. Je lui passe tout de suite la parole, puisqu'il y a plusieurs questions qui le concernaient. Monsieur Doumié, vous avez normalement le micro ouvert. Vous pouvez y aller.
Oui, bonsoir à tous. Alors désolé, je n'avais pas forcément prévu d'intervenir ce soir. Juste pour répondre à quelques questions concernant le réseau électrique. Alors effectivement, quand on a un opérateur de type Campus IA qui se raccorde, on fait des études très importantes hein, sur le raccordement. La manière dont ça se passe est relativement simple, c'est qu'on fait d'abord des études de réseau. On va regarder les lignes électriques qui sont à proximité du site choisi, voir lesquelles permettent d'alimenter. En l'occurrence, la procédure fast track dans laquelle s'inscrit ce projet vise justement à placer le projet Campus IA sous des lignes qui sont très capacitaires. Donc ça, c'est très important et très intéressant pour RTE. C'est-à-dire que nous, on a regardé quelles lignes étaient capacitaires, quelles lignes pouvaient fournir de la puissance pour un projet aussi ambitieux que celui-là. Et on a désigné ces lignes-là, et c'est pour ça que le site se retrouve à Fougy aujourd'hui. On fait également des études de plus long terme, des études de zone, pour s'assurer que le réseau est résilient, que l'alimentation dans les prochaines années sera robuste. Et enfin, on a des études de long terme sur l'équilibre offre et consommation, qui doit être satisfaite à chaque instant. Donc là, je rejoins tout à fait Madame Denis du Shift Project. Ça, c'est des études qui sont menées sur des échelles de temps beaucoup plus longues, jusque 2040, voire 2050 et bientôt 2060. Et pour ces études-là, aujourd'hui, on a une très bonne confiance sur la capacité de production du réseau. Néanmoins, on appelle évidemment à intégrer la consommation des data centers dans les différents scénarios de l'État, que ce soit la SNBC comme mentionné ou d'autres. Et nous, on va effectivement incorporer la consommation des data centers dans les futures études qui seront publiées dans les prochains mois. Et là, notamment, je fais un renvoi vers une concertation en cours de la CNDP sur le schéma décennal de développement du réseau. C'est la manière dont RTE va faire évoluer son réseau dans les 15 prochaines années et notamment prendre en compte les sites de production et les sites de consommation intensive qui n'étaient pas lors des précédentes études, à savoir les data centers. Voilà, j'ai essayé de faire court. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais je pourrais reprendre la parole éventuellement plus tard si besoin.
Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous propose de passer à la seconde table ronde virtuelle qui sera
Jean-Baptiste, pardon, parce que je ne veux pas laisser une question en suspens. Le point qui a été mentionné sur les économies d'échelle, je pense qu'il est très important. Effectivement, quand on réfléchit au projet, la première chose, c'est les économies d'échelle énergétique. Il y a un seul poste source haute tension, une infrastructure réseau partagée plutôt que dupliquée, et aussi la possibilité d'avoir un réseau de mise à disposition de la chaleur. Donc voilà, tous ces effets combinés conduisent à un coût unitaire plus faible, voilà, une installation plus efficace. Donc il y a un vrai bénéfice à ça. Il y a aussi une optimisation qui est d'ordre foncière et environnemental. On a un site qui est un site sur lequel on peut densifier dans une certaine mesure. Et ça nous permet de limiter l'artificialisation sur d'autres sites si on a plein de petits sites qui ont chacun leur pourtour, leur parking, etc. Il y a un impact aussi en termes de massification de la puissance de calcul pour accueillir des acteurs stratégiques. Et ça fait le lien notamment avec les sujets souveraineté dont on va parler dans un moment. Et enfin, il y a l'effet écosystème qu'on a voulu mettre au cœur de ce projet, où concrètement, si on avait cette idée d'une part des profits vers l'éducation, recherche, formation, mais tout ça sur la base d'un petit site, bon, bah, ce serait une initiative sans doute louable, mais avec un impact sensiblement inférieur, et pour lequel on aurait sans doute du mal à avoir certaines des conversations et des engagements de partenariat qu'on a aujourd'hui avec ce niveau d'échelle.
Merci beaucoup.